Le balado que tu t'apprêtes à écouter, tu peux pas l'entendre ailleurs. C'est une exclusivité.
88.3, c'est fac.
Ça part ici.
Le 16.
Bonjour tout le monde, mon nom est Vincent Gianjopi, je suis correspondant vert et or pour le collectif et ses fac. Aujourd'hui, nous sommes lundi le 1er avril et on va parler d'une ligue sportive qui a fait ses débuts il y a quelques mois à peine, mais qui fait déjà fureur au Canada et aux États-Unis. Il s'agit de la Ligue professionnelle de hockey féminin. On va donc commencer par parler de comment cette ligue en est venue à apparaître et on ira ensuite plus en profondeur sur son fonctionnement et on terminera avec quelques bonnes raisons d'écouter cette ligue. Alors, comment cette ligue a-t-elle vu le jour d'abord? Ben, avant 2019, il existait déjà deux ligues majeures de hockey en Amérique du Nord, deux ligues de hockey féminine. On avait tout d'abord la Ligue canadienne de hockey féminin, ainsi que la Fédération première de hockey. Malheureusement, la première de ces deux ligues, donc la Ligue canadienne de hockey féminin, a dû cesser ses activités en 2019 en raison de difficultés financières. Les joueuses de hockey n'avaient donc d'autre choix que de joindre la ligue restante, soit la Fédération première de hockey, si elles voulaient continuer à pratiquer leur sport. La plupart d'entre elles étaient toutefois assez réticentes à cette idée, surtout en raison des salaires assez inadéquats là, qui étaient offerts par la FPH. On y reviendra un peu plus tard. Donc, les joueuses de la LCHF ont donc créé un syndicat nommé l'Association des joueuses professionnelles de hockey. Et par l'entremise de cette organisation-là, elles ont pu boycotter la saison suivante de la FPH en affirmant là, qu'elles ne joueraient dans aucune ligue professionnelle tant qu'elles n'auraient pas accès à, et je cite, à des ressources que le hockey professionnel demande et mérite. L'initiative de la Ligue professionnelle de hockey féminin a ainsi vu le jour à l'automne 2023, remplaçant donc la Ligue canadienne de hockey féminin et englobant la Fédération première de hockey. En date d'aujourd'hui, et alors que la première saison régulière de la Ligue tire bientôt à sa fin, on peut y compter un total de 157 joueuses provenant de 12 pays différents. Et parmi ces 157 joueuses-là, on retrouve également 90 joueuses d'origine canadienne et qui sont réparties en 6 équipes différentes. On en a 3 d'abord au Canada, soit à Montréal, Toronto et Ottawa. Et on en a également 3 aux États-Unis, à Boston, à New York et à Saint-Paul, au Minnesota. Une particularité de la Ligue, c'est justement le fait que les matchs ne sont pas toujours joués dans les mêmes arénas, afin d'accommoder les partisans pour les matchs qui sont plus en demande et probablement aussi pour faire découvrir la Ligue à différentes agglomérations. Il arrive que les matchs soient joués dans différentes villes environnantes et même parfois dans des arénas de la Ligue nationale. Si on prend l'exemple de l'équipe de Montréal, bien celle-ci joue habituellement ses matchs à l'Auditorium de Verdun, qui a une capacité d'un peu plus de 5000 places, qui est quand même assez bon, on s'entend. Mais cependant, en vue de l'affrontement du 20 avril prochain qui opposera l'équipe de Montréal et l'équipe de Toronto, bien le match se tiendra plutôt au Centre Bell, qui est évidemment l'aréna du Canadien de Montréal. C'est un amphithéâtre qui a une capacité de plus de 21 000 spectateurs. Et croyez-le ou non, ben tous les billets de match ont trouvé preneur. Le match devrait donc être joué devant salle comble, c'est-à-dire devant un peu plus de 21 000 spectateurs. D'un point de vue extra-sportif, ben on constate aussi que la Ligue professionnelle de hockey féminine offre une multitude d'améliorations sur les ligues féminines précédentes. En effet, alors que la Fédération professionnelle de hockey avait fixé son salaire annuel minimum à 10 000 $ canadiens, mais la Ligue canadienne ne versait qu'entre 2 000 et 10 000 $ à ses joueuses à chaque année. Évidemment, ces très maigres salaires obligeaient les joueuses à se trouver d'autres emplois à l'extérieur du hockey, ce qui n'est évidemment pas souhaitable si l'on désire développer le niveau sportif du hockey féminin en Amérique du Nord. La Ligue professionnelle de hockey féminin offre pour sa part un salaire minimum de 47 000 $ canadiens, ce qui est autour du salaire moyen au Canada, et celui-ci peut monter jusqu'à plus de 100 000 $. On s'entend qu'on est encore loin des salaires de la Ligue nationale de hockey, mais on ne peut quand même pas négliger là, la nette amélioration entre la LPHF et les ligues antérieures, et on ne peut plus espérer que ces salaires continueront à augmenter avec les années. Si l'on passe maintenant à ce qui se passe sur la glace, ben en date d'aujourd'hui, il ne reste que 5 matchs à jouer à chaque équipe. L'équipe de Montréal se retrouve présentement au 3e rang du classement général avec un total de 31 points. Toronto est premier avec 36 points et Minnesota est 2e avec 35 points. Et finalement, on a également Ottawa là, qui est 4e avec 27 points. Il s'agirait donc en principe de ces 4 équipes qui participeraient aux séries éliminatoires. Et le format des séries est également assez intéressant. et diffère un peu de celui qu'on voit, par exemple, dans la Ligue nationale de hockey. Alors, l'équipe qui termine première au classement, dans ce cas-ci, pour l'instant, il s'agirait de l'équipe de Toronto, ben cette équipe-là pourrait choisir l'équipe qui a terminé au troisième ou au quatrième rang, et ce serait cette équipe-là qu'elle affronterait dans un 3-5. Une confrontation 3-5, première équipe qui remporte 3 matchs. Et l'équipe qui termine deuxième au classement se retrouvera à jouer contre l'équipe que la première équipe n'aura pas choisie. Au niveau des statistiques, on a l'attaquante torontoise Nathalie Spooner qui mène la ligue avec une récolte de 20 points, dont 15 buts, ce qui fait également d'elle la meilleure buteuse de la ligue. Et on a également Alex Carpenter de New York qui la suit de près avec 19 points, dont 10 aides. Et donc, Carpenter est la meilleure passeuse de la ligue. Et on a également la fameuse Marie-Philippe Poulin là, qui complète le podium avec un total de 17 points. Finalement, on peut se poser les questions suivantes. On peut se demander comment la Ligue professionnelle de hockey féminin est devenue si populaire si rapidement. Et également, pourquoi mérite-t-elle d'être encouragée? Je crois qu'une des réponses à ces deux questions, c'est son accessibilité. Le hockey a beau être un sport qui est quand même là vraiment ancré dans notre culture depuis vraiment la nuit des temps, on sait très bien que les billets coûtent extrêmement cher, spécialement dans des gros marchés comme Montréal, Toronto et New York. Les billets de la Ligue professionnelle de hockey féminine sont pour leur part extrêmement abordables. Ils peuvent varier entre 25 et gros max, 75$. La diffusion des matchs est également très facile d'accès pour monsieur et madame tout le monde, puisque la très grande majorité de ces matchs-là sont disponibles gratuitement en web diffusion sur YouTube. Et pour avoir regardé certains matchs sur YouTube, justement, la qualité est très bonne et on retrouve souvent plusieurs milliers de personnes qui regardent le match en direct. On peut donc faire une genre de cumulation si on pense à un aréna qui peut être rempli de 5000 personnes avec peut-être 10 000 autres personnes qui regardent le match en ligne. 15 000 personnes, c'est assez similaire à ce qu'on pourrait retrouver dans un aréna typique de la Ligue nationale de hockey. Si l'on veut toutefois quelque chose d'un peu plus professionnel là, que seulement une web diffusion YouTube, la chaîne RDS a diffusé 16 des 24 matchs de l'équipe de Montréal sur ses ondes, et la couverture de ces matchs est d'ailleurs faite par un panel qui est 100% féminin, ce qui est une première dans l'histoire de la chaîne, donc un accomplissement là, qui vaut la peine d'être mentionné. Un autre point évident qui provoque beaucoup d'engouement envers la Ligue professionnelle, c'est le niveau de jeu. Le calibre de la Ligue est extrêmement relevé, avec vraiment une centralisation de certaines des meilleures joueuses au monde. On peut penser à Marie-Philippe Poulin, Hillary Knight ou Sarah Nurse, là, qui se retrouvent toutes dans la même Ligue et qui jouent les unes contre les autres de manière assez régulière. Le jeu est très très fluide et beaucoup moins physique que la Ligue nationale de hockey, mais vraiment dans un bon sens. Selon moi, ça rend les matchs beaucoup plus dynamiques et très agréables à regarder, chose qui n'est pas toujours le cas dans les matchs de la LNH. Il y a toujours de l'action, mais le jeu est quand même très organisé et de très grande qualité. Finalement, je crois que les gens sont tout simplement heureux de voir le hockey féminin s'émanciper peu à peu et sortir de l'ombre de son homologue masculin, et sincèrement, comme il se doit. On a pu constater les efforts que les joueurs ont effectués pour se rendre jusque-là au cours des dernières années, pour pouvoir pratiquer leur sport dans les meilleures conditions possibles. Et on est vraiment content de voir que, tranquillement, pas vite, on s'en vient là. Mais malgré le chemin parcouru, on sait très bien que les inégalités sont encore présentes, que ce soit au niveau des salaires, des investissements dans les équipes ou dans la couverture médiatique. Cependant, le projet sportif en tant que tel là, de la Ligue professionnelle de hockey féminine, en est un qui est extrêmement intéressant et qui, sincèrement, a le potentiel d'éventuellement changer cette narrative. On espère de tout cœur que ça fonctionnera, et vous pouvez être sûr que nous serons présents à chaque étape. C'est donc tout pour moi pour aujourd'hui. J'espère que vous avez apprécié cette petite rubrique sur la Ligue professionnelle de hockey féminin, et on se retrouve demain. Ici Vincent Gianjopi, correspondant Varéor pour CFAQ et le collectif, et je vous dis à demain.